Sujet de discussion.
Présentation, Sonia Nzian.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Votre espace de discussion aujourd'hui s'intéresse au stress lié à la rentrée scolaire, autant chez les parents, les élèves que les enseignants. Tous sont concernés d'une manière ou d'une autre. Avec nos invités sur le plateau, nous allons essayer de voir comment bien gérer le stress lié à cette période. Nous sommes donc sur le plateau avec Alamba Akissi Amédée. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du CINEMAPSI, Syndicat national des enseignants des écoles maternelles publiques de Côte d'Ivoire. Avec vous sur le plateau, Claude Kadio Aka. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'OPECI, oui. L'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire.
C'est ça.
Encore merci d'être venu sur notre plateau. Et un autre invité, Bakayoko Nour. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue.
Exactement.
D'accord. Avant de parler du stress lié à la rentrée scolaire, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le stress déjà ?
Le stress, c'est un état pathologique qui nous empêche de faire normalement ce que nous devions faire à la base. C'est-à-dire, ce sont des mécanismes intérieurs qui inhibent un peu nos capacités à réaliser quelque chose. Mais déjà, il faut dire qu'il y a le bon et il y a le mauvais stress. Mm-hmm. Donc, il faut préciser cela parce que le bon stress nous amène à nous surpasser, à faire mieux. Et le mauvais stress, généralement, nous amène à faire quelque chose de pas très normal ou bien abandonné. Voilà.
Donc, et dans le cas de la rentrée scolaire,
le stress lié à la rentrée scolaire, ça peut être bon pour certains et moins bon pour d'autres. Pourquoi ? Parce que quand on est préparé à cette rentrée-là, voilà, le stress, il est bon. Pourquoi ? Parce que à l'entame de la rentrée, on ne veut pas être déjà surpris qu'on s'apprête. Donc déjà, le stress, il n'est pas là. Maintenant, si on n'est pas vraiment prêt, le stress devient un peu pas très bon. On peut surmonter, mais bon, ça sera un peu plus difficile.
D'accord. On aura le temps de parler de comment surmonter le stress. Mais avant, on va s'adresser à Claude Kadio Aka, qui représente les parents d'élèves sur notre plateau, parents d'élèves et étudiants. Alors, pourquoi la rentrée scolaire est très souvent source de stress pour les parents ?
Mais la rentrée rime toujours avec sortie d'argent. Et quand on parle de rentrée, déjà le parent, il est, comme on l'a dit, il est stressé. Il se pose beaucoup de questions. Où est-ce que je vais avoir suffisamment d'argent pour que l'enfant entre dignement, proprement, et qu'il puisse continuer l'année, parce qu'il ne s'agit pas de rentrer. Mais il faut poursuivre l'année scolaire. Donc tout cela donne des tournus, comme on le dit, aux parents et qui ne savent pas
où donner de la tête.
Et donc, ça pose d'énormes problèmes aux parents.
D'accord.
C'est pour ça qu'il faut vraiment se préparer et se projeter dans l'avenir. Dès qu'on est en vacances, dès le premier jour des vacances, on se dit, s'il y a les vacances maintenant, très bientôt, on va aller à l'école. Donc, on commence à préparer, à ouvrir peut-être un petit compte d'épargne où on va mettre un peu d'argent de temps en temps, parce que l'argent, on peut l'économiser tout doucement sans trop se rendre compte.
Sans être surpris par la rentrée scolaire.
Et puis bon, après, on se rend compte qu'on a eu un pactole pour vraiment faire
bien
face à la rentrée. Donc, tout est question de préparation.
D'accord, et de bonne organisation.
Tout à fait.
On va creuser en tout cas un peu plus loin dans notre discussion ce volet. Mais Alamba Akissi Amédée,
oui.
Le stress est également perceptible chez les élèves.
Bien sûr, le stress est comme par définition, je sais que c'est un ensemble de réactions physiques et physiologiques d'une courte durée. Donc chez les enfants aussi, il y a le stress parce que il s'est dit ben je dois aborder peut-être une nouvelle école, je dois aller dans une structure que je connais pas, Qu'est-ce que je dois faire? Qui je vais trouver? Et si j'étais dans une école avant, est-ce que je vais retrouver encore mes amis? Comment mes amis vont réagir? Qu'est-ce que je vais voir de nouveau qui va faire que je ne serai pas à l'aise? Donc, le stress se fait sentir et chez les parents, et chez les enfants, et chez les adultes. Parce que non seulement les adultes, les élèves, et les tout-petits aussi. Parce que c'est une réaction normale, parce qu'on va affronter quelque chose de nouveau. Donc, on peut avoir des peurs, on peut avoir des réactions, même comme je l'ai dit tout à l'heure, physiologie, parce que tu peux avoir peur, tu peux même avoir un mal de ventre, tu peux avoir mal à la tête, parce que tu es stressé. Mais ce qui est bien, c'est que le stress est de courte durée. Donc, avec les enseignants, on arrive vraiment à amener l'enfant à déstresser, parce qu'on va, on va lui parler. On va l'écouter, on va le mettre sur une voie où il va se dire que c'est vrai que j'ai laissé ma maison, mais je vais retrouver des personnes qui sont aussi, qui peuvent être des parents.
D'accord. Alors voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé des plus petits. Notamment de ceux qui abordent pour la première fois le chemin de l'école, la classe et tout. Oui. Alors, comment ça se manifeste justement, concrètement?
Concrètement, quand les enfants viennent... Ils sortent de la maison et retrouvent une autre structure qui est différente de la maison. Et la plupart du temps, les enfants pleurent. Ils pleurent beaucoup. Et quelquefois, même, ils veulent retourner avec la maman. Ils veulent retourner avec le père qui vient les accompagner.
Et soit dit en passant, parfois, les parents pleurent aussi.
Parfois les parents pleurent parce que les enfants sont en train de pleurer. Et on va vers les enfants pour leur dire, vous êtes venus ici, nous représentons vos parents et nous allons faire de bonnes choses ensemble. Et on arrive à parler à l'enfant et l'enfant cesse de pleurer. Ou bien, bon, quand les enfants sont plus petits, surtout à la maternelle, nous, les enseignants des écoles maternelles, on a toujours nos pagnes qu'on met à côté. Quand l'enfant pleure, on joue à l'africaine. On met l'enfant au dos et puis l'enfant se calme. Donc, on peut commencer d'abord à faire asseoir l'enfant pour lui dire que oui, maman n'est pas là, mais elle va venir. Papa n'est pas là, mais il viendra te chercher. Tu ne vas pas rester. Tu es là pour un moment. Donc là, on commence à mettre l'enfant en confiance. Et il s'est dit, je ne suis pas perdu. Je suis quelque part. Mais là, à la maternelle, par exemple, quand nous voulons recevoir les enfants, on fait tout pour que le cadre s'y est. Parce qu'on met de la couleur, on met des bonnes choses. Et quand l'enfant vient, il est émerveillé. Il regarde partout. Et là aussi, l'enfant commence à être curieux. Donc, il commence à déstresser un peu.
Regarde les couleurs, les dessins, tout ça.
Et tous les dessins. Et les maîtresses aussi qui sont accueillantes. On sent de l'amour. Ça, c'est surtout cela. On sent de l'affection.
Mais il faut dire qu'il faut avoir un petit côté psychologue aussi.
Oui, mais justement, c'est cela que quand nous, en tant qu'enseignants, dans nos écoles de formation, on fait la psychologie. Donc, ça nous amène aussi à pouvoir accueillir nos enfants et à savoir que l'enfant de 0 à tel âge, comment est-ce qu'on doit se comporter, ainsi de suite, pour qu'effectivement, on puisse prendre l'enfant et que cet enfant-là puisse rester pour apprendre et devenir quelqu'un de même.
D'accord. Là, on parlait des plus petits. Hein. Claude Kadioaka, c'est vrai que vous êtes parent, donc vous devez sûrement savoir un peu les effets du stress sur les plus grands. Hein. On va parler de ceux qui changent d'école du fait d'orientation ou d'affectation. Comment on peut percevoir qu'ils sont stressés par tout ce changement?
Dans un premier temps, au niveau des tout petits, c'est un saut dans l'inconnu. Ils changent carrément de cadre. Et donc, il se demande, il se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce qui va se passer devant? Qui est là-bas? Est-ce que j'aurai la sécurité que j'ai à la maison, etc., etc. Ça, c'est au niveau des tout-petits. Mais au niveau des grands, il y a deux situations. Plusieurs situations même, mais les situations qui sont plus parlantes. C'est que pendant les vacances, les enfants ont cultivé un certain nombre de comportements. Il a dormi un peu plus, il y a eu un peu de larcisme et tout ça. Et puis tout d'un coup, il va pouvoir aller prendre le bus à 4 heures du matin. Donc déjà, le cœur va battre. Et puis bon, ben, quand on va aller, on va changer de j'étais en sixième. Bon, désormais, je vais en cinquième. Ou bien j'étais en troisième, je dois aller en seconde. Je dois quitter, je dois aller plus loin. Bon, quels sont les camarades que je vais rencontrer? Quel sera l'état d'âme des professeurs qui vont me recevoir? Et tout cela fait que l'enfant a du stress. Et lorsque les parents aussi n'ont pas assez de moyens, hein, pour leur fournir le matériel nécessaire, bon, ils se posent la question, bon, mes amis seront bien habillés, ils auront les livres et tout ça, mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Et tout ça, ça peut stresser l'enfant. Hein, ça peut l'amener au découragement. Mais je dis que ça ne devrait pas, en principe, être comme ça. Quelles que soient les situations qui se présentent, l'enfant, qui est un peu plus grand, qui est réfléchi, il doit pouvoir comprendre que ne pas avoir une tenue extravagante, mais une tenue normale, hein, qui lui permet d'aller à l'école de façon décente, bon, c'est une bonne chose, et donc il doit pouvoir s'en contenter. S'il a des livres, bon, il peut s'en contenter, et puis bon, avec les amis qui sont plus nantis, bon, il peut toujours chercher à faire une entente avec les autres pour surmonter ce stress-là.
Ouais. D'accord. Alors, Bakayoko Nour, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce que Claude Kadjouaka et Alamba Kissiamédé viennent de dire, notamment sur les manifestations et puis les sources de stress?
Oui.
Par rapport aux plus petits et...
Par rapport, d'abord, les deux quand même.
D'accord.
Déjà, il faut dire que le stress... C'est vrai que par la définition basique, on pourra dire que c'est passager. Mais attention, il y a des stress permanents.
Oui, mais ça, c'est pathologique.
Voilà, il y a des stress permanents. Donc, au niveau des tout petits, même des élèves, vous pouvez rencontrer des élèves qui ont un stress assez permanent. Pourquoi? Parce que les sources de stress ne sont pas exclusivement liées au fait que l'élève parte à l'école. Non, il y a les sources de stress d'abord dans la cellule familiale. Je prends par exemple pour les plus grands, on va dire troisième ou bien ceux qui vont directement en sixième. Parce qu'on peut déjà orienter un élève qui habite à Cocody jusqu'à Port-Boy. Maintenant, le style éducatif à la maison, c'est que son papa lui dit se promène trop, il rentre tard, etc. Donc le fait qu'il soit orienté à Port-Boy, il se dira que s'il y a eu un retard, si je rentre tard, voilà des discussions à la maison, tout ça. Donc, par rapport au style éducatif, le climat familial, il est stressé. Et quand il va à l'école, il est stressé là-bas parce qu'il se dit qu'il doit vite rentrer. Donc, déjà, il y a plusieurs éléments qui bougent un peu dans sa tête. Maintenant, au niveau de l'enfant, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la littératie, il y a ce qu'on appelle la numératie. Pourquoi? Parce qu'à la maison, déjà, avant que l'enfant ne parte à la maternelle, le parent doit le prédisposer à certaines choses. C'est-à-dire déjà commencer à lui parler des couleurs, commencer à le mettre en contact avec d'autres enfants pour qu'il puisse socialiser avec les autres. Donc quand il part déjà à l'école et qu'il retrouve cette socialisation et déjà ce qu'on lui a montré à la maison comme certaines couleurs et tout, son stress ne sera pas permanent. Ça sera vraiment assez passager. Le deuxième point aussi, c'est que dans le climat familial, avant d'emmener un enfant, surtout à la maternelle, il faut lui faire un bilan médical et puis un examen psychologique. C'est vrai que les enseignants, voilà, ils ont fait la psychologie, ils ont fait la psychopédagogie, mais l'élément psychologique, même en tant que tel, en tant que prise en charge, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas carrément. Je le dis parce qu'on tombe souvent sur les enfants à besoins spécifiques. À première vue, il y a des choses qu'on ne pourra pas voir. Après, on va découvrir ça déjà dans le temps. Or, si le parent déjà a pris le temps à la base de pouvoir aider l'enfant, pour pouvoir faire des examens, pour pouvoir détecter tout ça, ça fait que cet enfant-là, quand il arrive à l'école, d'abord, c'est un enfant à besoin spécifique, mais l'enseignant ne pourra pas le comprendre. Vous prenez par exemple des enfants qui souffrent des troubles dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, etc. Il y a des enfants qui ont des signes d'autisme léger. Il y a des enfants qui ont des signes de TDAH. Donc souvent les parents ne le savent pas. Ils vont inscrire les enfants comme ça. Donc ça fait que lui, son stress, il est plus grand parce qu'il y a des aspects qui ne vont pas réellement avec sa psychologie. Vous voyez, puis il y a des enfants à haut potentiel intellectuel. Donc eux, on les appelle généralement des surdoués. Le problème, c'est que généralement, ils sont en échec scolaire, ils sont plus stressés à l'école parce qu'ils ne sont pas dans le cadre qui leur sied en tant que tel. Donc déjà, si on a déjà tous ces éléments-là, on peut prévenir déjà le comportement de l'enfant en termes de perception de stress à l'école. Ouais, à l'école. Donc, il y a beaucoup d'éléments déjà qui rentrent en ligne de compte.
Alors, et, oui, allez-y.
Et pour les plus grands, ce qu'on appelle le dépaysement. C'est-à-dire, les enfants, le dépaysement, on va pas trop parler de dépaysement parce qu'il est dans son monde à lui. Pour les plus grands, ils sont plutôt dans la préadolescence. C'est pas de changement d'école, dans la préadolescence. Et puis, ils rentrent, d'autres aussi, dans l'adolescence. Quand ils ont l'orientation en troisième, ils sont déjà dans l'adolescence. En sixième, ils sont déjà dans la préadolescence. Donc, on est dans la pré- et dans l'adolescence. Il y a deux choses qui se lient ici. Ils sont en quête d'identité, ils sont en quête d'autonomie, ils sont en conflit permanent avec les parents. Donc, quand lui se retrouve à l'école, son stress, c'est comment je montre à mes parents que soit je suis le plus fort, ou bien comment je montre à mes parents que je suis très autonome, je peux m'assumer. Donc, à travers soit mes notes, ou bien à travers un comportement déjà à l'école. Donc, ça fait que si l'enfant, il a un style assez autoritaire à la maison, à l'école, il sera soit plus agressif ou encore toujours timoré. S'il a un style abusif, à l'école, il n'aura pas de bonnes notes parce qu'il aura moins confiance à lui-même. S'il y a un style débonnaire, l'enfant, il ne pourra pas persévérer dans les matières où il y a des blocages. Il ne pourra pas. Donc, s'il a un style assez démocratique, l'enfant sera plus équilibré pour mieux s'intégrer.
D'accord. Tout à l'heure, vous parliez d'examens à faire aux enfants avant la rentrée par rapport aux tout petits. Est-ce que c'est systématique? Je prends pour exemple, vous êtes sur le plateau.
Oui.
Claude Kadiouaka.
Ben, ce sont des
de
choses.
Faire, est-ce que c'est systématique?
Ce sont des choses qui devraient se faire. Mais malheureusement.
Mais est-ce qu'on apprend cela aux parents? Est-ce qu'ils savent qu'ils doivent, par exemple, faire tous ces examens dont parlait à l'instant Bakayoko Nour?
Malheureusement, on ne l'apprend pas aux parents. Les parents ne le savent même pas. Les parents ne savent même pas qu'il doit avoir des psychologues et tout ça pour ainsi les inciter à aller vers ces examens-là.
D'accord, si vous le permettez, donc, Claude Kadiouaka, nous allons prendre un auditeur.
D'accord.
Allô, allô?
Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour Sonia Zia.
Bonjour, notre ami de Koumassi.
Ouais, c'est Guy Sojan.
D'accord. Alors Guy Sojan, on vous écoute?
Ouais, je viens même après de prendre le poste en marche. Je ne sais pas si on parle de la rentrée.
Oui, nous parlons de rentrée, du stress lié à la rentrée, et pour les parents, et pour les élèves, et pour les enseignants.
Bon, moi, je pense que, bon, d'abord, la rentrée, d'abord, se prépare d'abord. La rentrée se prépare lorsque on tombe dans le mois de juin. On prépare la rentrée. Maintenant, pour concernant l'enfant, bon, quel enfant qu'on appelle à donner conscience pour dire que non, que, ah, mon fils, tu dois aller à l'école, voilà. Pourquoi l'école est bon? Tu dois donner les contours à l'enfant. Pourquoi est-ce que l'école est bon? Et ça peut me donner du courage à l'enfant pour y aller, pour que l'enfant puisse aller à l'école. Ça peut donner du courage. Mais quand tu as un enfant à l'école, il faut causer à l'enfant pour dire pourquoi est-ce que tu vas à l'école. Voici les raisons. Et tu expliques comme ça clairement l'enfant. Et l'enfant, moralement, l'enfant sait que aller à l'école, c'est une très bonne chose. Donc comme ça, mes parents m'ont dit d'aller à l'école. Donc, j'irai à l'école. Comme ça, tu lui parles de qu'on appelle de la réussite, que voilà si tu vas à l'école, voilà ce que tu as devenu, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait.
Donc il faut échanger avec l'enfant sur le bien fondé de l'école.
Voilà, et comme ça l'enfant est conscient, il sait qu'en partant à l'école, vraiment c'est une très bonne chose.
D'accord, merci beaucoup Guy Sojan.
Voilà. Merci beaucoup à vous.
Merci pour votre intervention. Vous souhaitez rebondir dessus? D'accord,
rebondir
allez-y.
Je voudrais dire que c'est très important pour les parents de préparer l'enfant avant la rentrée. Nous, par exemple, on a une lucarne où on fait les inscriptions avant qu'on commence le jour même de la rentrée. Mm-hmm. Et pendant ces inscriptions, lorsque nous recevons les parents d'élèves, nous leur demandons.
Rappelons que vous êtes enseignante.
Oui, je suis enseignante. Voilà. Et nous leur demandons de préparer les enfants en leur parlant du bienfait de l'école. Et il faut préparer l'enfant dans tous les domaines. Que l'enfant, par exemple, l'enfant de les tout petits, de 2 à 5 ans, il faut leur dire qu'il va arriver un moment où tu vas aller à l'école, mais tu ne seras pas de façon permanente avec moi. Et voilà comment est-ce que tu vas y faire. Voilà comment tu dois te comporter. Et voilà comment est-ce que tu dois me ramener ce que je veux. Et si tu travailles bien, attends-toi à ce que non seulement on va te recommencer à l'école, mais moi aussi je vais te recommencer parce que je serai content de toi. Et cela aussi, ça permet à l'enfant de savoir que je vais aller à l'école. Mais les parents, par exemple, qui ne sont pas très nantis, et je crois qu'il y a des possibilités, par exemple, de pouvoir les aider. Même en approchant véritablement les enseignants, on peut le faire. Mais je voudrais aussi dire que la préparation est primordiale. Véritablement primordiale. Les tout-petits, ça, c'est ce que la plupart du temps, on fait. On le fait parce que, par exemple, avant la rentrée, peut-être que les grands frères étaient dans l'école. Donc, on prépare, à la fin de l'année, on fait une réunion pour que les parents, on leur parle, pour que les parents préparent leurs enfants. C'est vrai que tout à l'heure, mon frère, nous, il disait que de façon psychologique, on devait apprendre les couleurs. Mais nous on s'est dit que c'est quand l'enfant va venir qu'on va lui apprendre. Donc, quand le parent, parce que quelquefois, quand on laisse le parent, il va plus loin que ça. Alors que c'est...
Il faut aller étape par étape.
Étape par étape. Et c'est par rapport à l'âge de l'enfant qu'on lui apprend ce qu'il doit savoir. Donc, ce qui fait que les parents doivent jouer un rôle préalable. Et puis, quand l'enfant vient à l'école, les enseignants prennent la relève. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que, quand l'enfant retourne à la maison, il se sente bien et qu'il ait envie de revenir à l'école. Parce que c'est très important. Il faut avoir envie de revenir à l'école. Si tu peux revenir à l'école, c'est que tu as commencé à déstresser un peu. Parce que tu vas venir à l'école, tu ne vas plus pleurer. Quand maman va te laisser, quand tu vas voir les jeux qu'on va mettre, quand tu vas voir comment est-ce que tu dois utiliser tes mains, comment est-ce que tu entends la voix de quelqu'un, toi-même, la maîtresse ou bien le maître ne te connaissait pas, dis ton nom. Donc toi, tu es étonné, tu dis, ah, mais comment elle fait pour connaître mon nom alors qu'elle n'était pas avec moi à la maison? Mais voilà quelqu'un qui connaît mon nom. Donc, ce qui fait que l'enfant commence à bien se sentir.
Vous le mettez en confiance?
On le met en confiance. Donc, l'enfant se dit que j'ai pas laissé. Si je laisse ma maman, je vais retrouver quelque chose aussi qui est très agréable.
Dans votre intervention, Alangba Akissi Amédé, vous avez évoqué, parlons de cette gestion du stress, d'enfants qui pourraient avoir mal au ventre et autre chose. Alors, quelles peuvent être les conséquences de cette, on va dire, mauvaise gestion du stress par les enfants, les tout petits?
Les tout petits, s'ils ont ce genre de réaction par rapport à leur corps, ils vont se dire, l'école, si je vais à l'école, je vais avoir mal à la tête. Si je vais à l'école, je vais avoir mal au ventre. Maintenant, il faut rebondir. C'est que on aura maintenant la correspondance entre les parents et l'enseignant pour qu'on puisse savoir ce qui s'est passé, pour que l'enseignant puisse voir ce qu'il peut faire pour amener cet enfant-là à ne plus avoir mal au ventre quand il est à l'école.
Mais est-ce que c'est arrivé parfois que l'enfant, bien qu'étant rassuré par les enseignants et tout, refuse d'aller à l'école? Et pas même à la rentrée scolaire, on passe le cap de la rentrée scolaire en cours d'année.
Bon, la plupart du temps, nous, les tout petits, là, on arrive à les amener on arrive à les amener à s'asseoir. Parce qu'on va leur apprendre à chanter. On va leur apprendre à utiliser les mains. On va leur apprendre à utiliser les pieds. On va leur apprendre à utiliser leur potentiel intellectuel. Ils vont se dire, ils sont en train de vivre quelque chose de nouveau. Quelque chose qui leur fait du bien. Ils se disent qu'ils ne viennent pas là pour perdre le temps. Ils viennent là parce que, quoi qu'il arrive, ils peuvent jouer. Parce que là, c'est ça, ils jouent.
Ils ont de nouveaux amis.
Ils jouent en apprenant. Mmh. Ils ont de nouveaux amis. Et ils voient que ils peuvent avoir des amis parce qu'il faut se socialiser. Ils peuvent avoir des amis. Et avec ces amis-là, ils peuvent parler, ils peuvent jouer et ils peuvent leur raconter ce que eux ils vivent à la maison. Ça, c'est très important parce que même les tout petits se parlent entre eux. Ils se parlent entre eux. Et ils racontent ce qu'ils vivent à l'autre. Et l'autre, si lui n'arrive pas à dire ce qu'il lui ressent, son ami qui est plus... Il va dire, ben, voilà ce qui se passe. Et on arrive à pallier à des réactions de ce genre-là, oui, en d'accord. parlant surtout avec l'enfant.
D'accord. Avant d'aborder le volet conséquences hein, de la mauvaise gestion du stress sur les parents, on va prendre un auditeur. Allô, allô.
Allô, bonjour.
Bonjour, bien, monsieur. Ça va très bien. Quel est votre nom, s'il vous plaît?
Oui, moi, c'est monsieur Gonébi.
Ah, d'accord. Monsieur Gonébi de Bondoukou. Comment vous allez?
Je vais très bien.
D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous?
Bon, vous savez, le problème, le stress, même, la préoccupation des parents, même là, c'est qu'est-ce que les enfants deviennent quand ils vont. C'est ça leur. Je vais vous donner un petit exemple. Aujourd'hui, allez-y. Le parent, quand par exemple son enfant est admis, bon, je prends un exemple, hein, il a eu l'entrée en sixième, ou bien il a même eu le bac. Vous m'écoutez, non?
Je vous écoute.
Et puis, c'est un monsieur, bon, pratiquement qui n'a pas grand-chose à la fin du mois. Et on envoie son enfant dans grande école. Quelqu'un qui a peut-être 100 000 francs par mois. Et on envoie son enfant dans grande école. Et grande école à 10 ans, c'est pas moins de 1 million 500 000.
Donc, comment bon, faire face aux frais scolaires?
Et puis, il finit. Il y a des gens qui font des sacrifices. Ils s'endettent, ils vont chez les marguillards, ils payent. L'enfant, les diplômes, il a tous ces diplômes-là. Et il ne peut pas, comment dirais-je, il est livré à lui-même. Ça, c'est pour les parents. Maintenant, concernant l'enseignant, regardez aujourd'hui, nous, quand on était à l'école, la discipline-là, les gens pensent que la discipline-là, c'est... seulement, comment vous appelez ça? Un enfant qui n'apprend pas ses leçons ou bien, par exemple, qu'on lui dit d'aller à l'école, il ne va pas à l'école. Mais si les parents ne lui donnent pas une fessée, mais il ne peut pas se rendre compte que son éducation préoccupe ses parents. Mais aujourd'hui, on ne frappe pas les enfants à l'école. On n'a pas dit de frapper les enfants. Un père de famille, son souci, ce n'est pas de tuer son enfant. Quand l'enfant, il est récalcitrant, mais aujourd'hui, on ne frappe pas les enfants à l'école. Donc, ça veut dire que le professeur même, il a peur même d'aborder, de corriger son enfant. Un enfant qui est, par exemple, taquin en classe, mais le professeur, il ne sait même pas ce qu'il faut lui dire. Là, il bavarde. Il ne peut pas lui dire non, taisez-vous. Donc, tout ça, là, c'est le stress. Maintenant, bon, allô?
Oui, je vous écoute.
Maintenant, je termine maintenant par les enfants. Aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est par là que je termine. Aujourd'hui, l'école même fabrique plus de chômeurs que d'individus améliorés au cours. Bon, quelqu'un, ses parents ne travaillent pas. L'enfant, son père ne travaille pas. Et il n'a pas l'argent pour aller inscrire son enfant à l'école. Quand l'enfant, par exemple, je prends par exemple quelqu'un qui ne travaille pas, qui a son fils, par exemple, qui est par exemple, dans une classe, dans une école privée. Bon, il va et puis on le renvoie de l'école. Bon, tout cela, ça constitue le stress de l'enfant, un peu ma préoccupation. Vraiment, l'école
d'accord. a tout un problème. D'accord, merci beaucoup Gonébi et bien de choses du côté de Bondoukou.
Merci beaucoup.
On va commencer par vous, Claude Kadioaka, mm-hmm. Puisque dans son intervention, il vous a pointé du doigt, hein, on va le dire comme ça. Alors, comment faire face aux frais scolaires des enfants, sachant que le parent peut-être ne gagne pas grand-chose, et puis que ce dernier, il s'endette et tout, et ne sait pas comment rembourser?
Bon, mais l'école, quand on met un enfant à l'école, il faut s'attendre à des dépenses. Hein. Ça, c'est naturel. Et donc, quelle que soit la situation du parent, il doit pouvoir assumer. Mais où je peux comprendre, c'est au niveau souvent des orientations des enfants. Des enfants qui sont tout petits, qu'on oriente par exemple à l'université, qu'on devrait orienter à l'université, ils se retrouvent dans des écoles privées, comme il le dit. Ça pose problème aux parents véritablement, parce que s'il n'a rien, il ne peut rien faire. Mais cela est dû au fait qu'il y a un manque criard d'infrastructures d'accueil au niveau des établissements publics. Donc on est obligé, lorsque les établissements publics sont comblés, on est obligé donc d'envoyer les enfants
dans les structures privées.
Dans les structures privées, en tout cas à contre-cœur, en tout cas. Le parent, pour qui l'enfant est orienté également, a des chagrins. C'est ça le véritable problème. Et petit à petit, on se rend compte que l'école privée est en train de tuer l'école publique. Il y a plus d'écoles privées que d'écoles publiques. Et ça exclut d'office les enfants des parents les moins nantis. Et donc ça, c'est un problème fondamental. Et on va donc rejoindre la marchandisation de l'école. Et donc si on arrive à ce stade-là, les parents qui n'ont rien, eh bien, ils auront des problèmes pour scolariser leurs enfants. Donc, ce sont des problèmes qu'il faut poser.
Pour aller un peu dans le sens de Gonébi, qui parlait de frais,
oui.
Nous avons recueilli une préoccupation d'un parent d'élève qui demande quels sont les frais à payer exactement.
Par rapport à l'arrêté au décret présidentiel, les frais sont suspendus, sont supprimés. Et l'État même a décaissé l'argent pour les différentes reines et autres. Donc, il n'y a pas de frais à payer, de frais physiques à payer à l'école. Les frais que je sais qu'on doit payer maintenant, ce sont les inscriptions en ligne pour pouvoir identifier les enfants et ordonner les choses. C'est ce que je sais.
Et qu'en est-il des écoles privées?
Et donc, au niveau des écoles privées, les écoles privées, c'est toujours payant, on ne peut pas faire autrement. Et même dans les écoles privées, il y a aussi des frais, des inscriptions en ligne. Et ça, je souhaiterais qu'on revoie cela. Parce que le parent ne va pas aller payer des inscriptions en ligne au privé et puis aller payer encore d'autres frais, des frais annexes, ça n'est pas fini. Ça, je demande, je profite donc de votre antenne pour lancer l'appel pour que ces frais d'inscription en ligne, là, on puisse les revoir au niveau des écoles privées. Voilà.
D'accord. Gonébi a également posé la question de la punition à l'école, dans le sens de permettre aux enfants d'être plus disciplinés. Enfin, c'est ce qu'il disait. Hein. Oui. Vous l'avez entendu.
Bien sûr.
Vous souhaitez réagir?
Oui, je veux réagir.
Oui,
je veux
réagir aussi.
Ouais. Par rapport à la punition, vous savez qu'il y a depuis des années maintenant, il y a un décret, je peux dire, mais peut-être un arrêté, qui est sorti pour dire qu'il n'y a plus de punition à l'école. C'est effectif. C'est vrai que lorsqu'on parle de punition, là, il parle des anciens temps où on faisait la punition. Mais en autre temps, on ne fait pas la punition comme on le fait maintenant. Et maintenant, c'est plus de chicotte à l'école. Plus de chicotte, qu'est-ce qui remplace la chicotte à l'école? C'est lorsque tu prends le temps pour parler avec l'enfant. C'est vrai que ceux qui ne sont pas dans l'école pensent qu'on ne peut pas gérer les enfants quand ils sont à l'école. Bien sûr qu'on peut les gérer.
Sans chicotte?
Ouais, sans chicotte.
D'accord.
Parce que ça dépend de comment tu prends ta classe. Ça dépend de comment tu t'imposes dans ta classe.
L'autorité?
L'autorité. Pour que les enfants de ta classe puissent savoir qu'il y a une personne dans la classe qui est l'autorité qu'il faut. Et c'est par rapport à cela que tu vas voir que ta classe peut ne pas être bruyante. Et puis les enfants travaillent bien.
D'accord. On va tout de suite passer le micro à Bakayoko Nour. Donc, juste un mot là-dessus avant de parler du volet des conséquences de la gestion, de la mauvaise gestion du stress.
Ok. Vous voyez, aucune théorie psychologique, que ce soit sociologique, au niveau de toutes les sciences humaines, aucune théorie n'a démontré que le châtiment corporel est vecteur de bonne éducation. Aucune théorie. Et même quiconque défie de me montrer ça. Généralement, dans les temps anciens, on nous frappait. C'était quand les Blancs étaient là, les Blancs ne vous frappaient pas. C'est après la chicotte est venue, tout ça. Nous, on reçoit des personnes qui sont vraiment âgées, mais qui ont encore ces blessures d'enfance-là. Parce que les problèmes des enfants sont dus aux erreurs des adultes. Donc, quand on commet ce genre d'erreurs à la base, on ne s'étonne pas que demain, l'enfant soit comme ci, soit comme ça. Donc, pour dire que la chose, elle est tellement simple. En fait, ce qu'on dit, ce n'est pas une punition, mais une sanction. Parce que la punition est imprévisible. La sanction est prévisible. Ça veut dire que l'enfant, il sait que si, par exemple, je fais tomber la clé, on va me mettre au coin, ou bien soit, s'il y a une activité plaisante là, je ne vais pas faire. Là, l'enfant, il connaît déjà ce qui arrive. Mais quand l'enfant ne sait pas, ça devient une punition, ça devient une nouvelle chose pour lui. Et là, généralement, c'est disproportionné à la faute. Et surtout, en matière de punition, vous savez, on a les besoins de l'enfant. On a les besoins physiologiques. On a les besoins. Donc, on ne peut pas dire à un enfant par rapport à une punition, parce que les parents aussi pensent qu'on ne dit pas de chicotte, on va dire à l'enfant, non, tu ne manges pas. Mais c'est être méchant. Manger, d'accord, c'est un besoin. Voilà.
On l'aura compris, pas de chicotte à l'école, chicotte, ça ne résout pas le problème. Nous allons prendre un auditeur.
Allô?
Oui, allô?
Bonjour madame, je suis Conan Frédéric et j'appelle de San Pedro.
D'accord, okay. Conan Frédéric.
Oui, je ne suis pas un enseignant, mais je suis un parent d'élève.
D'accord, on vous écoute.
Vraiment, je suis très ravi de vous entendre, d'entendre, disons, cette voix-là des enfants que nous envoyons à l'école. Vraiment, nous avons des enfants. Moi, j'ai des enfants que j'ai scolarisés. Mais il y a parmi ces enfants-là, certains qui sont devenus très récalcitrants, puisque quand ils reviennent de l'école et qu'on leur demande de réviser au moins leurs leçons comme nous autres, on le faisait par le passé, ils refusent catégoriquement sous prétexte que le maître nous a déjà montré et on ne peut pas, réviser nos leçons. Il y a même qui sont en cinquième, en sixième, en troisième, pour parler le français même, ça devient vraiment, vraiment difficile. Ils n'arrivent même pas à s'exprimer. Et l'école, aujourd'hui, commence à former des enfants qui deviennent plus bandits qu'auparavant. Moi, j'avais cessé l'école en 1989. Ben, aujourd'hui, je combats les enfants qui n'arrivent pas à s'exprimer dans ma famille.
D'accord. Je pense qu'on aura bien compris, Conan Frédéric, votre préoccupation. Vous voulez acheter quelque chose rapidement? C'est vrai que ce n'est pas le sujet du jour.
C'est pas le sujet du jour. Mais je crois que l'enfant, il grandit dans un cocon familial. C'est depuis tout petit que des réflexes, des comportements doivent lui être inculqués. Et lorsque on ne l'a pas fait, et qu'il grandit, ça devient plus compliqué de
Mais quand
redresser.
On parle de tout à l'heure, le psychologue en parlait, la période de l'adolescence, c'est une période où l'enfant veut s'affirmer. Est-ce que ça n'a pas un rapport aussi avec
Mais bien sûr, quand l'enfant
ce défi de l'autorité.
Et justement, c'est pour ça que nous avons besoin qu'il y ait des psychologues dans les écoles pour compléter la formation que les parents donnent à leurs enfants à la maison. S'il y a les psychologues, tous ces comportements vont être améliorés.
D'accord. Nous parlons de psychologue et on rejoint tout de suite Bakayoko Nour, notre psychologue sur le plateau. Alors, quelles peuvent être les conséquences de la mauvaise gestion du stress pour les parents, les enfants et les enseignants? En deux mots.
D'abord, pour les parents, la mauvaise gestion du stress peut amener à l'interruption de la scolarité de l'enfant. Parce que si on n'a pas payé l'école, si l'école est payante, si on n'a pas eu l'argent pour terminer la scolarité, il y a ça. Et puis, la mauvaise gestion du stress des parents peut amener à la négligence parentale, qui a trois niveaux. On a la négligence affective, on a la négligence physique, et puis on a la négligence de supervision. La négligence affective se manifeste comment? La négligence affective, c'est ne pas montrer à l'enfant qu'on l'aime, ne pas lui dire qu'on l'aime, ne pas le mettre en confiance, etc. La négligence physique, c'est de ne pas lui donner les vêtements, les chaussures adéquats pour qu'ils puissent se rendre à l'école. Et la négligence de supervision, c'est le fait de ne pas se rendre à l'école, rencontrer les enseignants, échanger avec le personnel enseignant et tout pour voir l'évolution du travail de l'enfant. Donc, ça peut amener à cette négligence-là. Et s'il y a cette négligence-là, c'est qu'on aura problème de performance à l'école. Maintenant, au niveau des enseignants, un enseignant qui ne s'apprête pas pour pouvoir partir à l'école, il y a déjà des problèmes personnels, des problèmes internes. Aussi, il y a la base même de l'enseignement. Pourquoi je suis venu à l'enseignement? Par amour ou bien parce qu'il n'y a pas de travail? Moi, j'ai rencontré des enseignants qui sont très fiers d'être enseignants. Mais quand ils donnent le coup, ils n'ont pas besoin de faire assez d'efforts parce que leur personnalité même permet à l'enfant même de comprendre par rapport à son rendu. Mais celui, par exemple, qui est venu là par défaut, mais ça se sent tout de suite. Et les enfants le sentent. Quand ils le sentent, il y a déjà une distance. Et quand il y a une distance, il y a un problème. Il y a ce qu'on appelle la phobie scolaire. L'enfant a peur d'aller à l'école. Il ne veut plus aller à l'école. Donc, du coup, la conséquence de ce stress-là par rapport à l'enfant, on a la phobie scolaire. Et pour tous les tout petits, souvent, on a ce qu'on appelle les TOP. On dit que je ne fais pas top comme ça avec le pouce, mais troubles d'opposition avec provocation. Vous voyez, les troubles d'opposition avec provocation, on a aussi la baisse des performances, ou bien soit l'enfant est très agressif, il embête tout le monde. Et là encore, c'est aussi à la maison. Le parent qui a appelé tout à l'heure, il a dit non, il a dit non, je ne veux pas étudier, etc. Mais attention, hein. Pourquoi? Quand l'enfant revient de l'école, le premier réflexe du parent, c'est quoi? Alors, tu vois, il faut faciliter le travail des enseignants. Le réflexe du parent, c'est quoi? Dans ton cahier de test, ou bien soit dans ton cahier de correspondance, ou bien quels sont les exercices que vous avez faits? Vous allez directement aller étudier. Quand l'enfant fait une bêtise, va étudier. Non, ce n'est pas comme ça la méthode. La méthode, quand l'enfant revient de l'école, on l'accueille. Comment tu vas? Comment s'est passée ta journée? Comment s'est passé à l'école? Tout. C'est après ça qu'on lui dit d'aller étudier. On s'intéresse d'abord à sa personne avant de s'intéresser qu'on appelle ça à l'acquisition des performances qu'il allait chercher à l'école. C'est d'abord ça. Comme ça, l'enfant va étudier parce qu'il est rassuré. Et puis, le deuxième point, c'est quand l'enfant fait une bêtise à la maison, on dit va étudier. Un tout petit, il fait une bêtise, va étudier. Il faut rester ta poésie, va faire ça. Ah, donc, étudier, c'est une punition. Donc, l'enfant, dans sa tête d'enfant, il ne comprend pas pourquoi du lundi au vendredi, il est puni. Parce qu'il va à l'école. On a inculqué, on a mis dans sa tête que étudier, c'est une punition. Alors que la méthode plus appropriée, c'est de discuter avec l'enfant, le mettre en confiance, tout ça. Et puis après, on lui demande d'aller étudier. Vous voyez, parce qu'on a ce qu'on appelle les formes de mémoire. Bon, c'est
on
vraiment...
On va pas tout développer.
Voilà, c'est...
D'accord. On va terminer, Pakayoko Nou, sur comment prévenir le stress lié à la rentrée scolaire.
D'abord, au niveau des parents. Au niveau des parents, déjà, il faut prendre des dispositions assez pratiques. Les dispositions pratiques pour par rapport aux parents, d'abord, est-ce qu'on a acheté les fournitures? Parce que nous, généralement, c'est que on dit règle numéro 1, anticiper. Acheter les fournitures. Il va me dire, non, mais je n'ai pas la liste des fournitures. Mais acheter des cahiers, ça va forcément servir. Aussi, acheter l'uniforme, les chaussures, tout ça. Genre, c'est au préalable. Donc, quand on a déjà tout, et on sait l'école où l'enfant va partir, s'il y a le transport à prendre en compte, si c'est un car, ou bien si c'est un Warren, ou bien si c'est le bus, on essaie de voir comment gérer ça à la base. Maintenant, au niveau des enseignants, pour prévenir le stress, il y a d'abord un bilan personnel que l'enseignant doit faire. Ça veut dire à quel niveau je suis. Est-ce que, je ne parle pas de l'évaluation que les inspecteurs font, est-ce que mes élèves, là, quand je donne le coup, ils comprennent vraiment? Est-ce que je ne suis pas un peu trop dur? Est-ce que je ne suis pas trop souple? Est-ce que le juste milieu? Est-ce que je ne dis pas des choses aux enfants qui peuvent les traumatiser? C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Donc, c'est une sorte de parole qu'on dit aux enfants qui les affecte sur le long terme. Parce que si un enseignant passe ensemble en disant à un enfant que tu es nul, l'enfant va se dire, c'est lui qui me donne la connaissance. S'il dit que je suis nul, c'est que je suis nul. Donc, il y a déjà ça qu'il faut prendre en compte. Au niveau de l'école en question, c'est déjà de mettre tout en œuvre pour que l'enfant soit dans un cadre sain, un cadre assez normal. Pourquoi? Parce que quand l'enfant quitte à la maison, il a besoin de sécurité là où il part. Donc, est-ce qu'il y a au moins les toilettes? Est-ce qu'il y a une infirmerie? C'est vrai qu'il y a les enseignants, ça c'est normal. Mais est-ce que les dispositions extra au niveau santé, sanité, est-ce que ça respecte tout ça? Donc, quand le parent est rassuré que l'enfant sera dans un cadre bien tranquille, l'enfant, le parent à son niveau, le stress déjà va diminuer à son niveau. Et aussi, apprendre à parler aux enfants avec des mots positifs. C'est très important.
Voilà. D'accord. Je vous remercie, Bakayoko Nour, Claude Kadioaka, en tant que président de l'OPC.
Oui. Ben, je crois que nous sommes tous confrontés à la dure réalité de la rentrée scolaire. Ben, il faut la faire. C'est très difficile cette année, c'est sûr, que toutes les marchandises sont à la hausse, les prix sont à la hausse, et ça pose beaucoup de problèmes, j'entends beaucoup de grincements dedans, mais je crois qu'on doit pouvoir être tolérant, hein, les enseignants, être tolérants, pour que progressivement on puisse quand même acheter les fournitures vraiment avec
au fur et à mesure,
avec beaucoup de souplesse, fournir le matériel de première nécessité, et puis bon, le reste, bon... pour le pouvoir après, par la suite. Donc vraiment, je souhaite une très bonne année scolaire à tous nos enfants, beaucoup de courage, qu'ils soient beaucoup plus dociles, parce que si on dit que l'école ne va pas, c'est pas parce qu'on dit que l'école ne va pas que l'enfant va aller chercher à frapper le professeur et tout ça. Et il y a même des parents d'élèves aujourd'hui qui vont aussi agresser les enseignants. Ça, il faudrait que on arrive à proscrire cela dans nos mémoires et puis dans nos écoles.
D'accord, je vous remercie Claude Kadioaka. Allons voir ici Amédée.
Merci. Je voudrais dire que je voudrais rassurer les psychologues qui est à côté de nous pour dire que effectivement les enseignants, avant de partir dans une école, mais avant d'enseigner, se préparent. Nous nous préparons, nous faisons avant d'aborder une nouvelle année, on se prépare parce qu'on sait qu'on va aborder une nouvelle année. Donc, par rapport à la formation que nous avons, nous savons ce que nous devons faire. Donc, nous allons nous préparer, non seulement de façon physique, de façon psychologique. On va se préparer parce qu'on ne sait pas, on va rencontrer des enfants. Tous les enfants ne sont pas pareils. Donc, ce qui fait qu'il faut savoir comment aborder l'enfant, comment mettre l'enfant en confiance. Donc, ce qui fait que l'enseignant lui-même, il se prépare d'abord.
D'accord.
Et puis, l'enseignant aussi fait tout pour avoir un langage pour que l'enfant puisse savoir qu'il est venu pour apprendre. Donc, la plupart du temps, les enseignants ont un langage qu'il faut pour amener l'enfant à pouvoir apprendre.
À
donner le meilleur de lui-même. Et puis, dire aux parents que avant que l'enfant vienne à l'école, qu'il le prépare aussi. Et lorsqu'il va le préparer, l'enfant aura envie d'apprendre ce que l'enseignant va lui apprendre. Quand l'enfant retourne à la maison, véritablement, nous demandons aussi aux parents de nous aider pour que l'enfant puisse apprendre ce que nous lui avons déjà dit à l'école. Apprendre ses leçons. Parce que quand les enfants repartent à la maison, ils reviennent, c'est comme si on n'a pas fait de cours. Et là, c'est difficile. Nous demandons aux parents, comme le psychologue l'a dit, de laisser l'enfant d'abord. Et puis après, amener l'enfant à étudier. Là, il sera plus... il sera reposé. Et son esprit sera un peu plus ouvert pour qu'il apprenne les leçons. Et puisque nous sommes aussi des parents d'élèves, nous savons que la cherté de la vie incombe à tout le monde. On n'a pas demandé de façon systématique les premiers jours d'école, venez avec toutes les fournitures. On va petit à petit et on sait comment la rentrée se fait et qu'elle devienne effective.
D'accord, je vous remercie Alain Bac ici à m'aider. Rappelons que vous êtes secrétaire général du CINEMAPSI, syndicat national des enseignants des écoles maternelles publiques de Côte d'Ivoire. Et avec vous sur le plateau, nous étions avec Claude Kadioaka, président de l'OPC, organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, et également avec Bakayoko Nour, qui est psychologue. Aujourd'hui donc, nous avons parlé du stress lié à la rentrée scolaire, autant chez les parents, les élèves que les enseignants. Encore merci pour vos différentes contributions.
Merci
bien.
C'était Sujet de discussion.
Présentation Sonia Nzian.